Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour, bonjour à vous les curieux, bienvenue dans l'émission Indiscrète, qui fouille, fouine, contourne, pose les questions les plus osées, dérangeantes et curieuses. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie.
J'ai pas fouillé dans votre cartable.
Bah, j'espère bien, bienvenue à toutes et à tous dans la curiosité jusqu'à 15h. On se passionne pour tout, il y a de l'aventure, de la musique, de l'histoire, de la science et de la vie quotidienne, le tout dans la bonne humeur.
Oui, d'accord, mais aujourd'hui, quel est le menu ?
Désormais, si tu es youtubeur, tu dois parler du handspinner.
Oui, enfin, le handspinner, déjà détrôné par le Yo-Kai Watch. Vous vous demandez de quoi je parle ? Demandez à vos enfants ou vos petits-enfants, eux, ils connaissent forcément ce son. Ces jeux qui envahissent chaque année les cours de récré, on vous dévoilera les secrets des fabricants tout à l'heure.
Et maintenant, on découvre la vie secrète des loups.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Un nouveau rêve est venu d'Italie. Il est arrivé en France de façon naturelle, en toute discrétion, il y a 25 ans.
Cœur de loup.
Le loup qui reconquiert quelques-uns des anciens territoires dont il avait été impitoyablement éliminé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le loup est-il un sale type ? C'est curieux comme question, pas tant. En tout cas, c'est ce qu'on se demande en découvrant que la Roumanie a décidé d'abattre une centaine d'ours et une centaine de loups, une espèce protégée trop dangereuse, soi-disant, pour l'être humain. C'est en tout cas le prétexte. Bonjour Jean-Michel Bertrand.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes réalisateur et vous avez passé 3 ans proche des loups à les observer. Pourquoi le loup a si mauvaise réputation ?
Ah oui, le loup a vraiment mauvaise réputation et c'est très marrant parce qu'en fait, quand on s'intéresse au loup, on découvre tous les délires, tous les fantasmes humains, toutes les peurs liées à la nature sauvage. Et donc, c'est quand même un animal très intéressant de ce point de vue-là.
Les Roumains qui veulent se débarrasser de leur loup, pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ?
Non, en fait, ils ont surtout peur des ours parce que la façon dont on se comporte avec ces animaux sauvages peut aussi les rendre déviants, si j'ose dire. Pas les loups, hein, parce que les loups, il n'y a aucun problème au niveau des humains. Mmh. C'est-à-dire que c'est plutôt des impacts sur les troupeaux, sur l'élevage, etc., sur les brebis. Mais au niveau des ours, quand on les nourrit, quand ils s'approchent trop près, on peut avoir parfois quelques surprises et quelques dangers, même si l'ours de Roumanie, qui est l'ours brun d'Europe, n'est pas un grizzly, ni un ours blanc, qui eux peuvent être beaucoup plus dangereux.
C'est-à-dire qu'ils s'habituent à l'homme, en fait, et que du coup, ça devient dangereux ?
Ben, si on les nourrit, et c'est ce qui se passe dans les parcs nationaux américains, il est formellement interdit de nourrir les ours parce qu'une trop grande promiscuité avec l'ours peut faire ressortir son caractère un petit peu parfois soupolé, on va dire. Bon, il n'y a jamais eu personne qui s'est fait dévorer par des ours, mais je pense que bon, c'est aussi un prétexte. Et par des loups, encore moins. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que le loup est vraiment un animal qui est curieux, mais qui est timide, qui est discret. Et aujourd'hui encore, on attend la fameuse dépêche AFP avec la personne qui s'est fait manger par un loup, mais on attend toujours.
Ça n'arrivera donc jamais, d'après vous, Jean-Michel Bertrand. Vous êtes... Sidonie l'a dit, vous avez passé 3 ans à observer les loups dans une vallée des Alpes. D'ailleurs, il y a un film qui raconte cette histoire, La Vallée des Loups, qui sort là en DVD, qui vient de sortir. Et vous voulez garder l'emplacement secret. Pourquoi ?
Eh bien, pour les laisser tranquilles, en fait, parce que cet endroit est un endroit relativement privilégié, même complètement privilégié. C'est une vallée fermée au milieu de grandes falaises qui est immense, qui fait à peu près 400 km², 40 km sur 10. Et là, on a une meute de loups qui vit tranquillement. Et c'est vrai que c'est pas simplement par rapport à la chasse ou aux gens qui voudraient les tuer, mais c'est aussi par rapport au dérangement, par rapport aux passionnés, aux curieux. Donc, je crois que c'est bien de les laisser tranquilles.
Est-ce qu'ils vous ont repéré, ces loups, Jean-Michel Bertrand ? Est-ce qu'ils vous ont senti flairer ?
Ah, ils m'ont complètement repéré. Et moi qui faisais pipi partout parce que je voulais justement... Mais oui, j'ai fait pipi partout.
Pour marquer votre territoire ?
Pour marquer mon territoire parce qu'en fait, il faut se faire reconnaître par les loups pour qu'ils vous captent et les rendre finalement curieux. Coucou, je suis là, je fais pipi, donc ils savent ce que je bois, ce que je mange, tout.
Et l'une des premières étapes pour trouver ces loups, parce que ça a été très compliqué, c'était de poser des caméras automatiques. On écoute un extrait du film.
Ça va bien mêler ces caméras automatiques. Elles déclenchent au mouvement... Elle filme de nuit, de jour. Encore faut-il les poser aux bons endroits. Et là, je vais un peu me fier aux traces, aux passages, aux centres. Ça va être un peu compliqué, mais bon, je vais y aller au feeling.
Elles vous servent à quoi, on vous entend dans l'extrait du film, à pister le loup? Vous en aviez posé beaucoup?
Une douzaine, en fait, sur le territoire. Et oui, c'était vraiment pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'animal, avec ses passages, ses habitudes. Alors au début, autant vous dire que j'avais tout sauf des loups. Ça, c'était fabuleux. Et puis après, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment la meute fonctionnait. Et franchement, si j'avais pas eu ces caméras, je crois que j'aurais eu encore plus de mal.
Et il vous fallait beaucoup de temps pour récupérer les images de ces caméras automatiques, parce que le territoire est vaste.
Ouais, c'est vaste. Il me fallait 6 jours de marche pour récupérer les caméras, mais ça, je le faisais tous les 2-3 mois. C'est-à-dire que je laissais les caméras tranquilles, et puis après, je faisais ma petite tournée. Et entre-temps, évidemment, j'étais sur le terrain, et en faisant mes petits pipis, en bivouaquant toujours aux mêmes endroits, pour que les loups s'habituent à ma présence, en fait.
Grâce à son pipi, et pas que, notre invité s'est fondu dans le territoire des loups pour pouvoir les filmer, les comprendre. Il a notamment observé une meute. On vous raconte cette organisation dans un instant sur RTL.
14h-15h. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Chaque jour, vous faites de RTL la première radio de France. Aujourd'hui, ce succès est reconnu par les professionnels des médias.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci.
Merci beaucoup.
RTL vient d'être nommée radio de l'année lors du Grand Prix des médias 2017 CB News.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
RTL.
RTL.
Première radio de France et meilleure radio 2017.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
La musique du film Danse avec les loups pour lancer cette séquence. Grâce à notre invité Jean-Michel Bertrand, on partage le quotidien de ces animaux extraordinaires. Je rappelle que vous avez passé 3 ans dans une vallée des Alpes à les pister, à les découvrir, à vous faire accepter et finalement à réussir à les filmer. 3 ans et donc toutes les saisons, c'est pas une expression. Vous êtes resté même au cœur des hivers les plus rigoureux.
Oui, en fait, j'ai passé, on va dire, en moyenne 4 jours par semaine au bivouac. Je partais en général entre 3 jours et 1 semaine. Et puis je rentrais 1 jour ou 2 pour recharger les batteries, pour me ravitailler, pour boire un coup avec les copains au bistrot quand même. Et puis voir aussi ma famille, ma femme et mon fils. Mais chaque fois que j'étais en bas, je me disais, il doit se passer des trucs, je dois rater des choses. Donc j'avais envie de remonter.
La neige, c'est un allié pour pister les loups?
Ah, complètement. Ouais. Alors là, la neige, c'est vraiment un allié. Et justement, quand la neige fond au printemps, c'est là qu'on reprend vraiment avec les caméras automatiques. Parce que quand on n'a plus de traces, ben on se retrouve un petit peu démunis. Donc c'est le petit coup de cafard de la fin de l'hiver, en se disant, bon, ça, on ne va plus voir ses traces.
L'hiver qui a quand même apporté son lot de tempêtes, ce qui n'est pas simple quand on est planqué comme notre invité sous une tente, camouflé, et que le vent empêche de tourner. Écoutez.
Voilà, désastre. Je dis que les loups ne sortent pas maintenant. Si les loups sortent maintenant, je ne pourrais même pas les filmer. Ça m'a envié, ça m'a fait tourner la caméra. Là, la folie.
Des conditions vraiment pas toujours faciles. Vous étiez seul pour affronter tout ça? Seul.
Alors là, cette séquence que vous entendez, oui, là, cet extrait, j'ai filmé ça avec mon téléphone portable. Et c'est dans le film. Alors, j'ai été seul pendant 1 an et demi. Et après, j'ai une cadreuse, Marie Amiguet, qui est venue me filmer. Alors, ça a été très compliqué parce qu'en fait, moi, j'avais essayé justement d'être rituel, de me faire tolérer, de rendre les loups curieux. Et tout l'enjeu de ce film a été de me faire filmer par quelqu'un qui ne soit pas trop intrusif. Donc, ça a été compliqué. Et pour vous donner un exemple, Marie Amiguet, qui m'a quand même beaucoup filmé, elle n'a vu les loups que 2 fois. Et on a surtout travaillé ensemble en fait sur la fin du tournage, dernier hiver, dernier printemps, pour faire ce qu'on appelle des plans raccords, pour pouvoir raconter cette histoire qui en fait s'est écrite au jour le jour. C'est vraiment une histoire le scénario s'est écrit tout seul.
Alors, on a besoin de vous entendre décrire l'expérience pour bien percevoir la difficulté de se faire accepter de ces loups. Et pour finalement goûter la saveur de ce que vous allez nous raconter maintenant, c'est-à-dire le fonctionnement d'une meute dans votre film qui vient de sortir en DVD, on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Comment sont-ils organisés? C'est quoi une meute? C'est une famille, en fait?
C'est vraiment ça. C'est le mot. La meute, c'est la famille. Alors la meute, ça fait un peu peur. Ouais. La famille, c'est plus cool. Et en général, quand on parle de loup, on parle de meute. Mais c'est vraiment la famille. En fait, vous avez les deux dominants, c'est-à-dire le mâle et la femelle alpha.
Ils sont à égalité.
Et qui sont alors plus qu'à égalité, parce que j'ai pu constater là, dans le film, en l'occurrence, que c'est toujours la femelle alpha qui marche devant. C'est-à-dire au cours des déplacements, quand ils partent en chasse, quand ils se déplacent, la femelle marche devant. Voilà, donc vraiment, je pense qu'elle a une importance capitale. Et puis vous avez quelques jeunes de l'année d'avant, ou des jeunes encore un peu plus vieux, qu'on pourrait qualifier de tanguis, et qui sont restés dans la famille.
Les
et
loups adoptent d'autres loups aussi, par exemple.
Alors, il y a aussi des interactions entre des loups qui s'en vont, des loups qui arrivent, et qui permettent évidemment de mélanger le sang, et de ne pas avoir de problème de consanguinité. Et on a vraiment des choses étonnantes et des très mystérieuses quant à la dispersion des loups.
Qu'est-ce que vous avez vu comme lien dans cette famille de loups ? Quels échanges ? Est-ce qu'il y a des bisous ? Est-ce qu'il y a des attentions ? Est-ce qu'il y a des engueulades ? On réprime les petits loups qui ne sont pas très sages ?
Ben c'est assez fabuleux parce que ce que je disais, ce que j'ai fini par conclure, c'est de dire que ces animaux sont besogneux. Et moi, j'ai eu cette impression de voir cette famille qui était au service des petits, en fait, des louveteaux. Et en fait, tout leur travail, et c'est pour ça que c'est un animal qui est finalement très proche de nous, au contraire de l'ours, justement. Quand une mère ours a ses petits, elle ne voit plus jamais le mâle. Et le mâle peut même menacer les petits, donc elle les protège. Alors qu'au niveau de la famille des loups, là, on a une vraie famille, un vrai clan, qui travaille pour emmener ces jeunes dans la vie un peu comme nous. Et ça, je l'ai énormément ressenti. Mais en revanche, quand les jeunes commencent à être grands, qui commencent à prendre de la place, là, ils vont être virés du territoire. Et c'est pour ça qu'il y a de la dispersion et que les loups vont coloniser de nouveaux territoires.
Et les nuits avec les loups, c'est forcément agité, non ? Réponse tout de suite sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
14h-15h. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Je sais que la fin du voyage approche. Les loups n'ont pas que des amis. Et l'homme qui dort dans la montagne ne doit pas les leurrer. Leur faire baisser la garde. Je dois partir. Les laisser.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis triste.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il fascine les humains depuis la nuit des temps. Vous raconte comment vivent les loups sur RTL grâce à notre invité, le réalisateur Jean-Michel Bertrand, qui a passé 3 ans parmi les loups dans une vallée des Alpes, une vallée gardée secrète. Alors vous avez pu les observer. Ils vivent en meute. C'est une famille. C'est un mot beaucoup plus doux. Comment est-ce qu'ils communiquent ?
Eh bien, beaucoup de pipi. Justement,
on y revient.
Pipi caca et hurlement, évidemment.
Parce que contient le pipi caca en fait ? Des informations ?
Des
sur
informations,
quoi
ben sur en fait tout. Et là, j'ai un extrait dans le film, bon, on ne va pas tout dévoiler, mais j'ai un extrait d'une caméra automatique qui est complètement incroyable, où on a un loup qui a fait caca. Et derrière ce loup.
Toute la forêt passe.
Toute la forêt passe. Génial. C'est un truc de fou. On se croirait chez Walt Disney, mais c'est la réalité.
Il passe faire quoi ?
Et tout le monde passe. Faire pipi dessus, etc. Alors vous avez les lièvres, les sangliers, les biches, d'autres loups. Enfin, c'est compliqué.
Et à la fin. Il ne faut pas raconter la fin.
On ne raconte pas la fin, justement. À la fin, il se passe un truc incroyable qu'on ne va pas raconter.
Mais ils glanent quel genre d'infos alors ?
Mais c'est toutes les infos, en fait. C'est leur façon à eux. C'est le web de la forêt.
C'est pas.
C'est-à-dire que, voilà, je fais pipi. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait pipi aussi. Et en fait, j'ai pris cette inspiration auprès d'un scientifique qui s'appelait Ferley Mowat, qui avait écrit un livre et qui était un chercheur canadien et qui cherchait à être très discret comme ça pour approcher les loups. Et il se rendait compte que quand au plus il se cachait, au moins il les voyait. Et à la fin, il faisait pipi partout, il buvait du thé pour faire pipi et il tapait dans des casseroles et tout pour justement se signaler. Et c'est là qu'on voit qu'on doit exister avec ces animaux-là. Alors autant avec l'aigle, je me cache, je suis invisible, je monte de nuit, l'aigle ne me voit pas et j'arrive à le filmer caché sous un filet de camouflage, autant le loup sait que je suis là et me tolère en quelque sorte.
Et alors la nuit, les hurlements dont vous parliez, mais vous l'avez évoqué en un mot, c'est une façon de communiquer aussi ?
Aussi, bien sûr. Et alors là, franchement, autant le premier loup que j'ai vu, ça a été un choc, vous imaginez, colossal, ça a été une émotion très forte, mais les hurlements, la nuit, et j'en ai malheureusement pas énormément entendu, c'est-à-dire que je trouve que les loups hurlent moins que ce que j'imaginais.
C'est vraiment ce qu'on entend
cas
là, dans la mise en onde d'André Fassel.
Ah ouais, non mais c'est extraordinaire. Alors vous êtes là, dans votre duvet, à la Belle Étoile, au mois d'octobre, et vous entendez hurler à 100 mètres de vous, et là, je peux vous dire que c'est une émotion énorme. Quoi. On a l'impression de voyager dans le temps, on a l'impression d'être 10 000 ans en arrière. En fait, ça raconte beaucoup de choses.
Ouais. Les loups qui, malheureusement, depuis des siècles, sont chassés pour chasser par les hommes. Vous nous disiez, on attend toujours la première dépêche qui va nous annoncer qu'un loup a dévoré un humain. C'est quoi leur proie ? Parce que ce sont des prédateurs, les loups.
Alors, leurs proies sont en général de grands ongulés. Alors, bien sûr, ils vont manger quelques marmottes dans les Alpes ou autre. Et aussi, j'ai vu les jeunes jouer et manger des sauterelles comme font les renards. Mais bon, ça, on peut dire que c'est l'apéro. Et sinon,
voilà, apéro-sauterelle.
Sinon, c'est vraiment les grands ongulés.
Ils chassent en meute ?
Ils chassent soit en meute, soit tout seuls quand ils sont en dispersion solitaire. Malheureusement, et là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais en général, ils chassent en groupe. Et donc, ils chassent beaucoup le cerf. Le cerf conditionne beaucoup la présence des loups, le chamois, le mouflon, le sanglier et le chevreuil.
C'est ça la vie quotidienne d'un loup, c'est chasser.
Ben c'est de, alors ils ont un côté un petit peu commère aussi, je trouve,
oui,
un peu
concierge.
Ouais, c'est-à-dire ouais, on voit ce qui se passe, on fait le tour, on fait justement toujours ces marquages partout et on surveille le territoire pour justement qu'il n'y ait pas d'autres loups qui viennent parce qu'on défend le territoire et aussi évidemment la recherche de gibier pour chasser.
Vous avez pu filmer Jean-Michel Bertrand 6 louveteaux en liberté, ce qui est une forme d'exploit parce que c'est difficile de trouver et de filmer des louveteaux. Sauvages, est-ce qu'ils sont surveillés ? Est-ce qu'il y a un adulte là, un chaperon, puisque vous nous parliez de famille ?
J'ai vu des trucs assez incroyables, notamment une jeune femelle qu'on appelle une subadulte, donc une femelle de l'année d'avant, mm-hmm. qui leur apprenait à ritualiser, qui jouait avec eux tous les soirs. Voilà, la nounou, et qui était certainement une de leurs sœurs ou de leurs tantes. Et j'ai été surpris de ne pas voir les dominants, justement, entre eux, ils amenaient à manger, en fait. Et parfois, ils étaient vraiment livrés eux-mêmes, ces louveteaux, tout seuls. Donc on sent qu'au moment où les jeunes sont sur ce qu'on appelle le site de rendez-vous, un endroit qui est un endroit très précis et où ils attendent les adultes quand ils partent en chasse, et bien là ils apprennent l'autonomie et on s'en rend vraiment compte et parfois ils sont laissés livrer eux-mêmes.
Les loups qui ont aussi en quelque sorte leur GPS pour se retrouver. Okay. Vous allez le savoir, vous allez vous rendre compte comment ça marche. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt.
Pierre et le loup, pour lancer cette séquence, on découvre le quotidien finalement d'une famille de loups grâce à vous, Jean-Michel Bertrand. Je rappelle que vous avez passé 3 ans dans cette vallée des Alpes. Ça donne un film merveilleux, magnifique, qu'on conseille à tout le monde, aux grands, aux petits. Faites-le voir à vos enfants, vos petits-enfants. Ça s'appelle La Vallée des Loups. Il vient de sortir en DVD. Et il y a par exemple ce moment magique, une des bonnes surprises de votre film, quand le loup apparaît au réveil.
J'ai à peine le temps de me lever, ils sont déjà là. C'est le mâle dominant, il est énorme. Et la femelle alpha, encore elle. Ah, ils me regardent, ils passent la crête. Ils doivent partir chasser. Un autre membre de la meute a dû rester à la tanière pour surveiller les louveteaux.
Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que ça vous est arrivé de pleurer ?
Ah ouais, carrément. Et en plus, alors ça a été un truc justement parce que j'étais tellement bouleversé qu'on voulait le filmer avec Marie dans ces fameux plans raccords qu'on a fait à la fin du tournage. Mais je ne suis pas acteur et je n'ai pas réussi. Elle a simplement filmé mes yeux. Je trouve qu'elle m'a bien eu au niveau d'un regard. Mais j'ai pleuré. D'émotion. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez le temps passé sans rien voir, à douter, à se dire je ne les verrai jamais. Parce qu'en fait, j'ai vu un premier loup 3 mois après avoir commencé. Donc je l'ai vu brièvement, ça a été fabuleux. Mais après, il a fallu attendre une année entière sans rien voir.
Et c'est parce vous avez adopté qu'ils sont approchés de vous ?
Ben parce que je crois qu'ils ont compris mon petit manège, justement, que j'ai commencé à faire partie du décor, ils ont commencé à être curieux. Et quand vous voyez cet animal que vous avez tant espéré, mais c'est un bouleversement terrible. D'ailleurs, les premières images que j'ai faites de cette louve que j'ai vue filmer pour la première fois, elles sont pourries au niveau qualité. C'est flou, ça tremble.
Ça tremblote, il y a trop d'émotions.
Ben oui, trop d'émotions. Et là, franchement, mais c'est des choses vous voyez, très, très, très fortes.
Il faut le dire, on découvre vraiment tout sur la vie de ces animaux magnifiques, discrets, comme vous le dites, ces loups, qui suivent toujours, presque toujours, le même chemin pour retrouver leur tanière. C'est ce que vous racontez dans votre film.
Oui, à un moment, j'ai compris qu'il y avait ce fameux chemin des loups. Et d'ailleurs, on s'en rend compte parce que quand on regarde les empreintes dans la boue ou autre, on voit qu'il n'y a pas de traces d'ongulés à ces endroits-là. Il n'y a pas de traces de chevreuil, de cerf, de chamois. Il y a des traces des loups. Et quand on a la chance de trouver ce chemin des loups, ben c'est aussi une forte émotion parce qu'on se dit dans ces montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, à la limite de la forêt, vous vous dites il y a 10 000 ans. Peut-être que les loups passaient oui. déjà là.
Mais c'est quoi leur GPS alors ? C'est l'odeur ?
On ne sait pas exactement, mais évidemment, l'odorat fait partie vraiment de leurs atouts principaux. Quoi. C'est extraordinaire.
De ce chemin des loups, on a fait cette expression à la queue leu-leu ?
À la queue leu-leu, parce qu'ils marchent toujours l'un derrière l'autre. Ouais. Et quand vous regardez, pour l'anecdote, quand vous regardez leurs traces dans la neige, vous voyez une trace de loup. Et vous vous dites, il y a un loup. Et vous suivez ça pendant 2 heures avec les skis de randonnée, les pots de phoque, vous suivez un loup. Et d'un coup, ça part comme ça, à droite, à gauche. Et on se rend compte qu'il y avait 2, 3, 4, 5 loups. Et en fait, chacun marche des pieds dans les pieds du précédent pour ne pas se fatiguer comme nous lorsqu'on marche dans la neige, en fait. Et donc, c'est vraiment cette expression quand ils se déplacent à la queue leu-leu l'un derrière l'autre, les pas dans les pas des autres.
Il y a une autre expression qu'Alba Ventura emploie souvent sur RTL, c'est « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Pourquoi on dit ça?
Je crois que les expressions...
C'est une expression de Martino Bruy, à propos de François Hollande.
Oui, elle le reprend. Et Alba Ventura le reprend.
Mais c'est vrai que le loup, si on prend toutes les expressions, il y a de quoi faire un livre. Et je crois qu'il y en a qui en ont déjà fait. En tout cas, il y a des choses incroyables. Parce que le loup a justement une place énorme dans notre inconscient collectif, dans notre histoire commune. Malheureusement, cette image n'est pas forcément bonne et c'est triste.
Merci beaucoup, merci, Jean-Michel. Merci, Bertrand, merci. Votre film La Vallée des Loups est sorti en DVD, puis un livre qui complète cette expérience qui est édité aux éditions Salamandre. Et puis vous étudiez en un tout petit mot la dispersion des loups, c'est la suite de l'histoire.
Il y aura une prochaine histoire, je crois qu'on va se revoir.
Ah, génial, on est ravis.
Vous êtes le bienvenu, merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez RTL.